Le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur les 30 ans du génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda avec cette question en particulier. Qui reste-t-il à juger 30 ans après? Plusieurs suspects ont trouvé refuge en France.
Nous entendrons également le témoignage d'une habitante de Gaza qui a décidé de revenir à Ran Younes sitôt l'armée israélienne retirée.
Et puis les agressions parfois mortelles de collégiens ces derniers jours posent la question de la responsabilité des réseaux sociaux. C'est ce que pensent en tout cas des associations de protection de l'enfance. Après ce journal, Marguerite Caton, ce sera votre question du jour.
Les Qatars ont-ils existé ?
Il est considéré comme le dernier génocide du XXe siècle. 800 000 morts en une centaine de jours dans l'indifférence de pratiquement tous les autres pays du monde. Hier, 7 avril, le Rwanda commémorait les 30 ans du massacre des Tutsis par les Hutus, une tuerie de masse dont l'ombre plane toujours sur le pays. Lors de son discours en mémoire des enfants, femmes et hommes Tutsis et Hutus modérés assassinés, le président rwandais Paul Kagame a rappelé cet abandon de la communauté internationale par mépris ou par lâcheté, selon ses termes. La cérémonie a eu lieu hier à Kigali en présence de politiques français, on y reviendra. Et c'est aussi en France que sont partis se réfugier plusieurs génocidaires, aujourd'hui poursuivis. On estime à une centaine le nombre de suspects qui vivent actuellement entre la France et la Belgique. D'ailleurs, une quarantaine d'enquêtes sont toujours en cours au pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, autorisé à engager des poursuites en vertu d'une compétence universelle. Les précisions de Florence Turm.
En France, le premier procès a lieu en mars 2014, un procès filmé pour l'histoire. Pascal Simbi-Kangwa, un ancien officier de la garde présidentielle, est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, peine désormais définitive, tout comme la perpétuité infligée à deux anciens bourgmestres. En revanche, quatre autres hommes ont fait appel de leur condamnation. De nouveaux procès sont donc prévus, sauf pour l'un des accusés décédé depuis. En octobre, la cour d'assises de Paris jugera également Eugène Roy-Mussillo, un ancien médecin soupçonné d'avoir participer au génocide, mais une quarantaine de procédures sont toujours en cours. Le temps file et inquiète Alain Gauthier, président du CPCR, le collectif des partis civils pour le Rwanda, à l'origine de la grande majorité des plaintes déposées depuis 2001.
Le compte n'y est pas, donc nous restons beaucoup sur notre faim. Beaucoup de dossiers encore à l'instruction. Je ne sais pas comment la justice française va s'en sortir pour juger tout le monde dans des délais qui ne sont plus raisonnables. Mais c'est vrai que les juges d'instruction travaillent beaucoup et ils ont besoin d'éléments, de témoignages. Mais ces témoignages sont de plus en plus difficiles à trouver parce que les témoins disparaissent, perdent un peu parfois la mémoire. Donc ce n'est pas simple.
Parmi les dossiers les plus emblématiques, celui d'Agathe Abiyarimana, 81 ans, la veuve de l'ancien président rwandais contre qui le collectif a déposé plainte et qui vit en France sans aucun statut légal. La juge d'instruction a bouclé ses investigations sans avoir prononcé de mise en examen. Lors d'une récente visite au Rwanda, le procureur antiterroriste a toutefois affirmé que l'affaire n'était pas close pour autant. Quant à l'enquête ouverte sur de possibles responsabilités de l'armée française, elle s'est soldée par un non-lieu. Les parties civiles ont fait appel de l'abandon des poursuites.
On le disait, la France était présente à cette commémoration du génocide hier à Kigali. Et pour cause, elle a commencé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron à reconnaître formellement ses responsabilités dans la tuerie. Elle était en 1994 très proche du pouvoir Hutu. Et sur ce sujet, une petite phrase a créé la polémique ce week-end. Dans la journée de jeudi, un communiqué de l'Élysée écrivait que, je cite, « la France, qui aurait pu arrêter le génocide, n'en a pas eu la volonté ». Perçu comme un pas supplémentaire dans la reconnaissance des responsabilités françaises et très critiqué par une partie de la classe politique, la citation n'est finalement pas apparue dans la vidéo d'Emmanuel Macron diffusée hier lors d'une cérémonie à l'UNESCO et sur une chaîne de télévision rwandaise. Les conseillers élyséens parlent d'une erreur de communication, mais pour l'historien Jean Garrigue, il s'agit là d'un rétro-pédalage qui prête à plusieurs interprétations. Écoutez-le.
C'est un témoignage de fragilité de la fonction présidentielle. On n'imagine pas De Gaulle s'incliner devant la pression comme ça d'une partie de la classe médiatico-politique, on va dire. Là, c'est vraiment un cas très paradoxal parce que c'était déjà assez courageux de sa part d'aller dans le sens des historiens, en l'occurrence, qui avait effectivement montré que l'attitude de l'armée française de Rwanda, enfin du gouvernement français de l'époque, sous la présidence de Mitterrand, était quand même très contestable. Alors, il y a peut-être aussi le fait que, en réalité, les faits, y compris ceux qui sont explicités par les historiens, sont des faits qui sont compliquées, que les responsabilités sont diluées et complexes à déterminer. Ça lui est déjà arrivé d'aller un peu trop loin pour certains jugements, etc., ou d'exprimer les choses maladroitement. C'est soit une forme de maladresse, ou alors c'est le recul d'un président un peu fragile par rapport à une contestation politique.
L'historien Jean Garrigue. 6 mois de guerre à Gaza et des informations contradictoires quant à la suite du conflit qui a tué des dizaines de milliers de Gazaouis et laisse l'enclave dans un état de détresse absolue. D'un côté, l'armée israélienne dit préparer une offensive à Rafah. De l'autre, elle a retiré ses troupes de la ville de Khan Younes où sont revenus presque aussitôt certains habitants qui avaient fui les bombardements, comme cette femme qu'a pu joindre Valérie Crova.
Dès qu'elle a appris le départ des troupes israéliennes, Samira a sauté dans un taxi.
On était tous surpris. On n'a pas imaginé que les Israéliens ont quitté les villes. On a resté sur les informations pour s'assurer qu'ils ont quitté Khan Younes. On a décidé d'y aller voir.
Aller voir son appartement qu'elle a dû quitter il y a 3 mois, sur ordre de l'armée israélienne, et qui, à l'instar de Khan Younes, a subi d'importants dégâts.
C'était un peu difficile parce qu'elle était touchée des attaques israéliennes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet. Mais on est obligé de vivre cette situation.
Des semaines durant, Khan Younes a été le théâtre de frappes aériennes incessantes et de combats acharnés entre le Hamas et l'armée israélienne qui affirme avoir démantelé le mouvement islamiste dans la ville.
Ils ont détruit beaucoup des tunnels, des maisons.
Samira ne s'en cache pas, le retrait des soldats israéliens lui a redonné l'espoir d'un cessez-le-feu. Mais pas seulement.
Beaucoup de monde déteste le Hamas, déteste les gens de Hamas, ne veulent pas que le Hamas reste ici. Et on veut que la guerre finira un jour.
Son souhait le plus cher est de fêter la fin du Ramadan à partir de demain soir chez elle, à Khan Younes, entourée de sa famille.
Les négociations pour une trêve et la libération des otages toujours détenus par le Hamas connaissent des progrès significatifs, c'est ce que rapportent en tout cas des médias égyptiens. L'Ukraine perdra la guerre si l'aide américaine prévue par Joe Biden reste bloquée au Congrès. C'est ce qu'a déclaré hier Volodymyr Zelensky au moment où la pression militaire russe s'accroît dans l'est du pays. 60 milliards de dollars d'aide sont en effet toujours bloqués par les élus trumpistes depuis l'année dernière. Sur place, en Ukraine, le gouvernement a ordonné l'évacuation de centaines d'enfants vivant dans les villages de la région de Soumy, près de la frontière. Tout près, dans l'oblast de Kharkiv, ces évacuations ont déjà commencé, parfois gérés par des bénévoles, comme ceux rencontrés par les envoyés spéciaux de Radio France, Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov, leur reportage.
On les retrouve à l'aube, au nord-est de Kharkiv, avec leur petite voiture déjà 3 fois réparée. Le pare-choc arrière tient avec du scotch. Dmitro et Maxime préviennent Rosa qu'ils sont en route pour venir la chercher, elle et ses 2 enfants, dans l'un de ces villages à portée de bombardements russes, à une 30 kilomètres de la frontière. Au bout de 2 heures de trajet sur des routes pleines de trous et de poussière, voilà le village. Rosa est fin prête, avec son petit garçon handicapé, Nikita, et sa petite sœur, Tania.
C'est trop effrayant ici, et je suis seule avec les enfants. On entend les boums tous les jours.
Rosa n'emporte que quelques sacs.
Je n'ai pas vraiment envie de partir. J'espère que nous reviendrons chez nous.
Tania, qui a 9 ans, serre très fort son gros chat en peluche. Elle dit que peu lui importe de s'en aller, car elle n'a plus d'amis ici. La moitié du village est déjà partie. La famille va loger à Kharkiv provisoirement, emmenée par les 2 bénévoles.
Ce qui est le plus motivant, c'est quand on quitte ces zones dangereuses. On voit le stress dans les yeux des gens. Une fois l'abri, ils vous disent merci.
Dmitro, lui, n'a pas d'enfant. Mais si j'en ai un jour, dit-il, je veux pouvoir lui dire que j'ai contribué à sauver des vies pendant la guerre.
Agathe Mahué.
France Culture, il est 7h10, le journal Anne Lorchouin, et c'était en 2016 la révélation de l'un des plus gros scandales financiers de ces dernières années.
Les Panama Papers, affaire dévoilée par le Consortium international de journalistes d'investigation, qui révélait que des personnalités du monde entier, chefs d'État et de gouvernement, responsables politiques, personnalités de la finance, du sport et du spectacle, avaient pratiqué l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. À partir d'aujourd'hui, 27 personnes sont jugées au Panama, parmi lesquelles les fondateurs du cabinet. En France, plusieurs affaires de violence entre collégiens ont émaillé l'actualité la semaine dernière, en particulier la mort d'un jeune garçon de 15 ans, roué de coups à la sortie de son collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne, mais aussi l'agression violente d'une jeune fille de 14 ans devant son collège de Montpellier. Appelé à réagir, le chef de l'État est resté prudent sur les causes et les circonstances de ces deux agressions, à chaque fois hors de l'enceinte scolaire. En revanche, son Premier ministre Gabriel Attal a estimé ce week-end que l'école avait un rôle à jouer dans ces agressions et promis des annonces. Quoi qu'il en soit, et selon les associations spécialisées dans les violences sur ou entre mineurs, ces agressions sont un phénomène de société. Les explications d'Estelle Caméraire.
Cette violence pourrait venir d'une rupture avec la société provoquée par les réseaux sociaux, où les adolescents sont coupés du monde, ils sont dans leur propre réalité et n'ont pas conscience des normes, voire de la gravité de leurs actes. C'est ce qu'estime Fabienne Quiriot, ancienne directrice de la CNAP, la Fédération des associations de protection de l'enfance.
La gravité, c'est la société elle-même qui la définit. Comme ils sont en dehors de cette réalité-là, ils n'en ont pas forcément conscience. Et ce qui est grave, c'est que c'est un phénomène qui s'entretient, qui peut s'amplifier justement par les réseaux sociaux et qui peut s'exprimer dans tous les lieux, à l'école, en dehors de l'école, dans la rue, voire même à la maison. Il y a un phénomène multiplicateur de cette violence-là parce que il s'auto-stimule.
Malgré tout, elle regrette des réponses instantanées et trop courtes, parfois même stigmatisantes.
Ne pas accabler l'école, puis la justice, puis la police, puis les parents, etc. Je pense que c'est un tout, que c'est une politique d'ensemble publique qui ne doit pas se faire au coup par coup, mais sur le long cours. Tout le travail qui va devoir être fait, c'est qu'ils réalisent la gravité de leurs actes. Ça ne veut pas dire que l'on essaie d'excuser leurs actes. Je crois que justement, il faut mettre les mots.
Les sanctions pénales sont importantes, mais le suivi est essentiel pour éviter des récidives. Parmi les solutions évoquées par Fabienne Quiriot, une forme de justice restaurative pour réapprendre aux jeunes concernés à développer de l'empathie pour les victimes.
On termine avec cette relativement mauvaise nouvelle pour les athlètes nageurs à 3 mois des Jeux Olympiques de Paris. Pour l'instant, la Seine n'est pas du tout baignable. C'est l'ONG spécialiste de la propreté des eaux, Surfrider Foundation, qui l'affirme dans une nouvelle étude. Elle se base sur des prélèvements réguliers depuis septembre au niveau des ponts de l'Alma et Alexandre III. C'est Lia qui irait.
Parmi les 14 prélèvements réalisés, 13 sont mauvais. La présence de certaines bactéries, E. coli ou entérocoque, dépasse les normes fixées par la Fédération internationale de natation. Marc Valmassoni de l'ONG Surfrider interpelle le comité des Jeux.
On est entre quasi 2 et 3 fois au-dessus des normes minimum impératives en fait, pour une pratique saine, en tout cas des athlètes pendant la saison. En termes sanitaires, c'est-à-dire qu'ils sont plus exposés, ils peuvent contracter en fait une pathologie, donc de la gastro-conjonctivite, otite, problème de cutané. Il faut envisager un plan B par rapport en fait à la natation.
La mairie de Paris compte sur le nouveau bassin de rétention tout près de la gare d'Austerlitz pour stocker les eaux de pluie et sauver la baignade. Mais pour cette ONG, ce ne sera peut-être pas suffisant.
Ça laisse une chance s'il y a des épisodes pluvieux qui sont modérés. Le bassin ne pourra pas en fait stocker, s'il y a une pluie importante, l'ensemble du ruissellement qui peut se passer si un événement pluvieux est très important. Donc à partir du moment où en fait il sera en incapacité de tout stocker, les eaux supplémentaires vont complètement ruisseler ou se déverser dans la Seine et pouvoir en fait avoir un impact sur la qualité bactériologique, là j'entends, du cours d'eau.
Il faudra aussi, selon cette ONG, accorder toutes les péniches au réseau d'assainissement. Il en reste une 20aine sur 250 à traiter. La mairie de Paris a investi plus d'1 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable. L'ONG veut continuer ses prélèvements pour vérifier la qualité de l'eau en toute transparence.
Un mot en bref du temps de ce lundi. Sec sur le flanc est, plus agité ailleurs. Comptez ce matin entre 6 et 14 degrés du nord au sud. De 13 à 22 au plus chaud sur le quart nord-ouest, entre 20 et 25 ailleurs. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Quentin Lafay.
Merci beaucoup, Anne-Laure. Dans quelques instants, la question du jour. Marguerite Caton, les Qatars ont-ils existé ?